les 3 pizzas gratuits, la madame dans le melon, du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bien le bonjour et merci d'être là. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30, vous le savez, pour partager le meilleur de l'été. Alors vous qui avez un potager, eh bien vous êtes au courant, c'est la saison des haricots verts. Eh bien on vous emmène les cueillir et les choisir en Dordogne, un département vert comme le haricot. On a de belles recettes aussi, vous entendrez. Question, tiens, pourquoi doit-on baisser la température du four à mi-cuisson d'une brioche? Gros bouillon ou petit bouillon pour cuire des pâtes? Eh bien, on va passer les cuissons à la casserole ce samedi. Et évidemment, pas de bonne table sans bon vivant. Les voici. À la mi-août, elle fait le compte des nouvelles tables qu'elle a découvertes. Ouf, il en reste encore quelques-unes à faire. C'est Charlotte Langrand. Bonjour Charlotte.
Bonjour Laurent, bonjour à tous. Oui, heureusement, il reste toujours des tables à faire.
Il est bronzé côté face. À la mi-août, il se retourne pour bronzer côté pile pour attaquer la rentrée. C'est Olivier Pouls. Bonjour
avec,
Olivier.
Avec le mois de juillet qu'on a eu, ça risque de ne pas s'équilibrer totalement
c'est
durant
ça,
l'été.
Il y aura un côté plus blanc. Et comme tous les samedis de l'été, nous retrouverons les meilleurs coups de fourchette de nos invités. Hélène Ségara, Patrick Fiori, Gaëtan Roussel et puis Christophe Bourseiller seront à table au menu de beaux débats passionnés, vous entendrez. Alors si on profitait, tiens, justement de la mi-août pour remonter le temps de nos papilles, quel est votre goût de la semaine, les amis? Les vacances sont bien entamées déjà. C'est peut-être un petit goût de vacances, Charlotte, je sais pas.
Alors moi, c'est le goût du romarin. Ah, il est souvent associé à l'aromatique des plats ou alors carrément à des infusions plutôt santé, plutôt bien-être. Alors qu'en fait, je l'ai goûté dans un cocktail. Olivier, peut-être que vous pouvez m'aider. Ça s'appelait le Caraba. C'était chez Mohamed Cheikh, le resto éphémère Manzili
au
Jardin des Plantes.
Toujours
à Paris.
Ouvert d'ailleurs.
Toujours ouvert. Et c'était une association de gin infusé au thé vert, de sirop de jasmin, d'eau de fleur d'oranger, un peu de tonique, du pamplemousse et du romarin frais dedans. Franchement, moi qui ne suis pas très cocktail ou parfois qui les trouve un peu trop sucrés ou trop classiques, et ben là, c'était vraiment très fort, des associations incroyables.
Il est super fort en cocktail, Mohamed Cheikh. Il est bien entouré avec un barman qui cartonne.
Un mixologue.
Ouais. Et c'est vrai que moi, j'en ai découvert un avec du bourbon aussi. Voilà, ça s'appelle, on le rappelle, le restaurant Manzili. Et c'est au pied du Jardin des Plantes. Donc, on peut faire une belle balade dans ce beau jardin parisien aussi. Votre goût de la semaine, Olivier?
Moi, c'est un petit coup de gueule. Je me suis un peu baladé durant cet été, à gauche, à droite. Et j'ai l'impression que les chefs, quand ils manquent d'inspiration, qu'est-ce qu'ils font? Ils dégainent un burger. Et bien moi, j'en ai marre que dès qu'on manque d'idées, on colle un burger à la carte. Alors, effectivement, ils les travaillent, ils trouvent du pain ceci, de la viande cela. Mais franchement, les gars, il n'y a pas que les burgers dans la vie, on peut aussi vendre d'autres choses.
Vous n'êtes pas le seul, je sais qu'Yves Candebord, qui partage notre table régulièrement, pense comme vous. Vous savez quoi? À la rentrée, on va faire un dossier spécial burger, on va revenir aux origines du burger, on va essayer de comprendre pourquoi effectivement il a détrôné le jambon beurre en France aussi. Et puis il y a des pro-burgers et il y a entre guillemets des anti-burgers, on fera un débat autour de ça.
Alors je ne suis pas complètement anti, c'est vrai que ça peut être bon, mais enfin les gars,
Il n'y a pas que ça, je suis d'accord.
C'est vrai qu'avec la crise aussi et la street food qui a vraiment déferlé sur toute la livraison et les tables.
Et c'est international,
année,
quoi.
Ça s'est vraiment extrêmement développé. C'est un peu trop systématique, je suis un peu d'accord.
C'est vrai
qu'il
y a une standardisation du goût. Alors, mon goût de la semaine, justement, c'est celui du burger. Non, c'est un ceviche de dorade
que
j'ai fait il n'y a pas longtemps. Mais voilà, ça, c'est un poisson cru. On peut prendre du sard également. Alors, la différence entre le ceviche, par exemple, et le tartare, c'est le taillage. On taille en biseau, bien épais, le ceviche. L'assaisonnement, il est ultra simple, comme au Pérou. Du citron vert, de l'oignon rouge, un peu d'avocat. Il n'y a pas d'huile d'olive dans le ceviche.
De la coriandre aussi.
Et de la coriandre, exactement. Une belle poignée de coriandre par-dessus. Voilà, moi ça, j'adore ça, c'est frais.
Ça se
fait en 15 minutes. Vous demandez juste à votre poissonnier de lever la peau des filets et c'est fini. Vous faites ça à la maison en rentrant, c'est du rapide. Allez, c'est l'heure d'aller au marché. L'été et les vacances sont aussi l'occasion de se faire de belles tablées avec des recettes qu'on aime retrouver en famille, entre amis. Quelle est votre recette justement de famille en été? Vos réponses au micro des bons vivants sur nos marchés de France.
La glace à la framboise. Ça par contre, voilà, ça ma mère savait super bien faire la glace à la framboise. Mais sauf que forcément j'arrive pas à la faire aussi bien.
C'est la salade Olivier, donc c'est une salade ukrainienne où il y a pas mal d'ingrédients, de crudités, de petits pois, de mayonnaise aussi. C'est pas forcément légère, mais très très bonne pour l'été.
Alors on fait souvent la soupe au pistou, c'est un classique chez nous.
Je suis d'origine libanaise, donc je fais des courgettes farcies, des aubergines farcies, deux belles bottes de persil, de l'oignon, moi je préfère mettre de l'oignon rouge, du blé concassé. Il faut tout émincer très très fin. Mélanger avec de l'huile d'olive, une très bonne huile d'olive, du citron, sel, poivre, et c'est parfait pour l'été.
Ah, ça c'est le goût de l'été tout ça. Merci messieurs, dames de prendre du temps pour répondre à notre micro. La soupe au pistou, moi j'ai redécouvert ça cet été avec Mathias Dandine qui est un chef de Gémenos en Provence. C'est fantastique ça, la soupe au pistou. Je trouve que c'est rassembleur, ça marche quand il pleut et quand il fait beau même.
À toute heure du jour et de la nuit, une petite soupe au pistou, paf. Même quand on se couche un peu tard, vous voyez,
de
l'été
nuit,
et
voilà,
tout.
Ouais.
Oui, il y a des féculents, vous avez raison, il y a des féculents. Et avant de dormir, c'est bien d'avoir des féculents parce qu'on a un sommeil de meilleure qualité. Alors tiens, Charlotte et Olivier, une recette de famille que vous refaites chaque été.
Un burger ?
Ah, moi, je vous... c'est pas une recette de ma famille, c'est une recette de famille du village corse dans lequel je vais souvent en Haute-Corse. De la famille Patrizzi, elle m'en voudra pas si j'en parle, de Paul et de sa mère Marcel qui tenait l'auberge du village pendant des dizaines d'années. Et je vous parle de fiadone. Le fiadone, c'est... Bon, alors je vais caricaturer, hein, c'est pas bien de le dire comme ça, mais c'est un peu le cheesecake corse.
Hein, oh là
donc
là.
Au citron,
alors là,
non, on
ne
peut pas
pays,
dire
vous.
Ça, mais en tout cas là, par
si,
contre, c'est
si,
vraiment c'est, le meilleur fiadone que j'ai
c'est
jamais
ça,
mangé
vous l'avez
de ma
très
vie.
Bien défini, c'est comme ça.
Oui, ouais. Parce que voilà, c'est avec du broche, c'est avec des zestes de citron bio ou en tout cas pour le zeste, oui, il vaut mieux que ce soit bio.
Il y a de beaux agrumes en Corse.
Voilà, il y a de très beaux agrumes, une noix de beurre à peine pour le plat, quelques œufs, un petit peu de sucre. Il y a un gros débat avec ma voisine Fleur sur combien on met de sucre, vous savez. Maintenant, c'est un peu, on aime moins, on aime les choses un peu moins corsées, on sucre moins. Mais voilà, c'est vraiment le goût de la Corse et c'est tellement simple.
La recette de famille que vous refaites chaque été, Olivier.
Elle est extrêmement simple et ma grand-mère la faisait, ma mère l'a fait, moi-même je la fais. Une tartine d'un pain de campagne qu'on a grillé tout simplement. Dessus, une belle couche de fromage blanc frais. Un petit tour de moulin à poivre, un petit peu de sel. Des radis émincés taillés très finement et un petit peu de ciboulette.
C'est simple, ça.
C'est
bien, ça.
C'est des tartines estivales gourmandes.
Oui, ça part en pique-nique aussi,
ouais,
ça.
Exactement. Et en Belgique, on mange ça avec de la bière, avec de la gueuse.
Eh ben voilà, de jolis goûts, de belles saveurs d'été. Alors moi, une recette que je refais tous les étés, c'est vrai, ce sont les haricots au lard et à la tomate que ma mère faisait quand j'étais enfant. Elle les fait encore aujourd'hui,
faites
effectivement.
Faites pas ça quand il fait 50 degrés, quand même.
Non, non, mais ça peut se manger tiède, en fait.
Oui.
Haricots verts poêlés avec du lard. Donc, c'est la matière grasse du lard qui va nourrir le haricot, qui va le cuire. Un tout petit peu d'eau et des tomates qui vont, elles aussi, rendre leur eau. Vous laissez réduire tout ça à découvert. 45 minutes de cuisson, quand même, à feu doux, feu moyen. Et il y a un petit côté compoté, il y a un mélange de saveurs. J'adore ça. Et c'est vraiment la saison des haricots verts. Et alors là, on est parti pour la transition, puisqu'on se retrouve juste après la pause en Dordogne pour cueillir les haricots verts avec Marjolaine, tiens, une maraîchère qui sera avec nous. Bon été et bonne route, hein, si vous êtes sur celle des vacances.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. 11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Délicieux en salade, fondant avec du lard, le haricot vert tient le haut du panier hein, des légumes d'été. C'est un légume qui permet aussi de faire des stocks et c'est bien pratique ça, Charlotte.
Bah oui, et puis qui a dit que les Français n'aimaient pas les haricots verts hein. Entre les conserves, les surgelés et puis ceux qui sont frais de saison, de cet été, les Français en consomment presque 1 kilo par an. Donc c'est en fait le légume vert qu'on s'arrache le plus.
Mais ils peuvent mieux faire encore, on peut passer
oui,
à 2
vrai.
Kilos. Moi,
allez-y.
Je dis.
Ouais, mais moi je suis fâché avec les haricots verts en boîte et ça date de l'époque de l'école à la cantine. Je on nous en servait. Et alors, quand le surveillant voyait que les assiettes étaient un peu vides, on entendait « Qui veut encore des haricots verts ?» On levait la main. Un instant, on ouvre les boîtes.
Bah oui,
c'est alors, comme les petits pois. Hein,
en
c'est
plus,
dommage.
C'est terrible bon. S'ils ne sont pas rincés
ouais,
après la boîte.
Ils étaient trop cuits dans leur eau de cuisson. Enfin, recuits dans leur eau de cuisson.
La boîte, c'est pas terrible. Mais le bocal en conserve, ça marche bien. Le bocal en verre, je trouve que voilà, c'est pas le même goût, effectivement. La France est d'ailleurs le premier pays producteur d'Europe de haricots verts. Et Olivier, on peut dire que comme la tomate et la pomme de terre, c'est un cousin d'Amérique, le haricot vert.
Bah merci Christophe Colomb. Là encore, c'est lui qui l'a ramené de ses expéditions, un haricot vert qui est donc originaire d'Amérique du Sud. mais qui a longtemps été consommé, non pas tel qu'on le connaît maintenant, mais tout simplement, on prenait le petit grain sec du haricot, qui d'ailleurs se réhydratait et puis servait beaucoup à accompagner les voyageurs. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, en Italie du Sud, qu'on a commencé à le consommer en état de gousse, donc ce petit légume tendre quand il est cueilli à juste maturité.
Alors c'est vrai que les variétés ont progressé au fil des années, il y a eu des croisements, et aujourd'hui on veut des haricots verts extra fins, sans fil. On vous emmène le cueillir, tiens, justement, ce haricot vert en Dordogne. Nous sommes avec Marjolaine Bancharel, qui est maraîchère en agriculture bio à la ferme de la Bruyère-Quiry à Saint-Alvert, en Dordogne. Bonjour Marjolaine.
Bonjour Laurent.
Comment vont les haricots verts en cette mi-août?
Ah ben les haricots verts, là, ils se portent super bien, ils sont très beaux, très fins, tendres.
Vous les avez semés quand?
Là, en fait, c'est à peu près un cycle semi-récolte de 70 jours, donc là, c'était à la mi-juin à peu près.
D'accord, et vous cultivez quelle variété, Marjolaine?
La variété Andante, c'est une variété en fait à récolte mécanique, normalement, et c'est une variété très groupée et productive, où en fait, tous les haricots verts arrivent en même temps.
Ça veut dire quoi, variété à récolte mécanique? Ça veut dire qu'il faut normalement un appareil pour cueillir les haricots?
Exactement. C'est qu'à la base, c'est une variété qui se récolte mécaniquement, donc avec une machine. Sauf que nous avons choisi cette variété-là, tout simplement, puisque, en fait, pour nous, c'est plus confort et plus pratique aussi à la récolte, puisque tout arrive d'un coup. Et donc, on a un haricot vert qui reste bien tendre et qui est très bien en frais et pour la conservation également.
On les aime extra fins, sans fil, les haricots verts, Marjolaine, mais parfois on tombe sur des filandreux. C'est la faute à quoi? À la variété, au climat?
Je dirais plutôt que c'est à quel moment est-ce qu'on va récolter en fait l'haricot vert. Car si on attend trop longtemps, il est trop mature et là, effectivement, il peut avoir plus de fils, voire même des graines.
Ah oui, donc il faut le cueillir au bon stade d'évolution.
Le haricot vert
en fait,
se récolte très jeune.
Il faut le cueillir jeune, comme la courgette.
Comme la courgette, tout à fait. Donc avant sa maturité.
Et vous les aimez comment, vous, les haricots verts, Marjolaine?
Alors les haricots verts, je les aime bien à la provençale. Donc sautés à la poêle, à l'huile d'olive. Et on fait revenir avec de l'oignon, tomate, persil et puis une petite pointe d'ail.
Ah ben on prend ça pour l'été. Bien merci Marjolaine d'avoir été avec nous au téléphone. Nos amitiés à Théo, votre compagnon qui travaille avec vous sur votre belle terre maraîchère. J'ai eu la chance de venir vous voir. Qu'est-ce que vous cultivez d'autre à part le haricot vert? Tiens, racontez-nous pour nous faire envie avec un beau panier d'été pour les vacances.
Bah pour l'été, on cultive forcément la tomate, le concombre, l'aubergine, les melons aussi. C'est tout à fait de saison pour l'été. Et puis des petites salades d'été pour finir le haricot vert.
Et ben voilà, bonne récolte alors d'été, Marjolaine. Et bonne journée à la Bruyère-Quiry à Saint-Alvert.
Bonne journée.
Et bonnes vacances peut-être. Vous allez en prendre quand même des vacances, rassurez-nous.
Oui, on prend quand même quelques jours. Ah oui, il faut bien un petit peu souffler pendant l'été.
Eh ben c'est bien, merci. Avant de le cuisiner, tiens Charlotte, un petit rappel quand même. Le haricot vert, c'est un mangeable cru.
Ah oui, il ne faut pas vraiment essayer parce qu'en fait, ces glucides sont composés de 50% d'amidon qui ne s'assimile qu'après avoir été chauffé. Donc cru, vous savez, ça laisserait des tanins et puis une sorte d'amertume vraiment assez trop forte en bouche.
Faut même pas essayer.
C'est pas un petit point.
Et en même temps, il faut pas trop les cuire parce que dès que c'est trop cuit, c'est vraiment plus passionnant du tout. Donc il faut vraiment les garder al dente. Le haricot vert, c'est vraiment le secret de la cuisson. Donc les cuire à l'eau bouillante salée et tout de suite les rafraîchir dans une eau très froide.
Oui, mais il y a plusieurs écoles. Ça, c'est bien pour une salade, par exemple, effectivement. Mais vous voyez, quand elle les fait à la provençale, par exemple, Marjolaine, ou quand je vous parlais de mes haricots verts avec du lard et des tomates, là, ils cuisent longtemps et ils deviennent fondants.
Tout fondant.
C'est presque, on pourrait dire, comme le calamar. C'est juste cuit, c'est cuit très longtemps, presque, je trouve.
Entre les deux, ça va pas.
Ouais, vous pouvez faire comme le restaurant Misnom à Paris, rue des Écouffes. Ils le passent très rapidement à l'eau, puis paf, ils le balancent à la plancha avec huile d'olive, ail, beaucoup de jus de citron, puis on les mange à la main comme ça. C'est parfait.
Et vous savez quoi? Ils s'embêtent même pas, ils ne les équeutent même pas eux quand ils font cette recette.
Et
je vous conseille de faire la même chose parfois à la maison parce qu'on ne cuisine pas des haricots verts parce qu'il y a l'équeutage. Alors déjà, il suffit simplement d'enlever un bout, celui de la tâche, mais le fil qui se trouve au bout, la petite pointe.
Il n'y a pas de goût.
Il n'y a pas de fil et puis c'est pas gênant. Mais même si on veut encore être plus fainéant, eh bien on n'enlève aucune attache et on les cuit comme ça et on fait une salade. Et après, c'est chacun se débrouille, on les mange avec les doigts. Quoi.
Exactement.
Hein, c'est un peu ça.
Bon, en revanche, ce qu'on ne fait jamais, c'est le fagot de haricots verts, ça je ne peux pas, moi.
Hein. Ça s'est perdu. Hein.
Ouais, le truc de traiteur qu'on mangeait dans tous les mariages avec la petite barre de lard autour.
Il y en a encore, je crois. Hein.
Ouais, bah, arrêtez là aussi.
On parlait de la soupe au pistou tout à l'heure. Hein, y a des haricots verts, bien entendu, dans la soupe au pistou. Ou alors une belle salade de haricots verts al dente, comme vous le disiez, Olivier, avec de l'épeautre, du bleu, des noix. Ça fait une belle salade complète. Ça
marche
aussi.
Avec de la viande froide, avec du poisson, avec tout ce qu'on veut. C'est un support fantastique.
Et oui, il y en a sous le capot, le haricot
vert. Compliqué à marier avec le vin, parce que son côté très végétal le rend effectivement. Un petit peu difficile, notamment pour les vins rouges. On ira plutôt vers des vins blancs.
Allez, on continue de se régaler. On vous emmène au Mucem de Marseille dans un instant pour un grand mezzé. On revient juste après la pause. À tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
La gastronomie, la cuisine, c'est comme la famille et les souvenirs, c'est une succession d'héritages. Alors à l'occasion de l'exposition Le Grand Mezzé au Mucem de Marseille, nous avons eu envie cette année de revenir sur l'influence de la cuisine méditerranéenne. Et elle en a de belles, hein, Charlotte Langrand.
Et elle est grande.
Belles influences. Allez, comme ça, pêle-mêle. La paella, bien sûr.
Le couscous.
Le couscous, le taboulé. Voilà, c'est des plats qui ont traversé la Méditerranée et qui sont devenus des classiques chez nous. Alors, petite visite guidée de ce grand mezzé. Et c'est vous, Charlotte, qui nous mettez en appétit.
Ça retrace déjà l'histoire plurielle des cuisines méditerranéennes. Et puis, ça montre que ce bassin méditerranéen, eh ben, ça a été vraiment la rencontre du goût du monde. C'est une cuisine métissée. Hein. Souvent, on a des bases de recettes qui sont les mêmes et qui sont déclinées dans tous les pays autour de cette Méditerranée. Donc vraiment, on voit bien ça dans cette exposition. C'est bien de voir que nous en sommes les héritiers.
Oui, le bassin méditerranéen qui a été pendant des siècles et des siècles le carrefour du monde entier entre l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, tout convergeait finalement par là, et puis c'est ensuite développé et s'aimé jusque chez nous en Europe.
Oui, si vous voulez un petit exemple.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Oui.
Mais c'est l'emblème de la gastronomie espagnole, hein, mais en fait, elle n'aurait pas existé sans l'implantation du riz par les conquérants arabes du 8e siècle.
Ben voilà, c'est beau, les influences. Voilà. Et en France, la civilisation arabe a aussi influencé notre cuisine. Il y en a beaucoup et pas toujours ce qu'on imagine, hein, des influences. Tiens, écoutez un bruit de cuisine et devinez la recette qu'il y a derrière. Allez, petit indice, c'est une recette maghrébine qu'on retrouve en Espagne, en Italie, au Portugal et même jusqu'au Brésil.
Il y a de l'eau, il y a du liquide en tout cas.
Ouais.
Oh là là, c'est difficile.
Ah ouais.
On n'entendait pas des graines un peu ?
Ah, si, du riz peut-être, non, du couscous.
C'est le couscous qu'on entendait, effectivement. Alors, comment le couscous s'est installé sur les tablés de Méditerranée ? Édouard Delaubry, qui est commissaire de l'exposition Le Grand Mezzé au Mucem de Marseille, fait le tour de la graine pour nous.
On ne s'attend pas à ce qu'on fabrique du couscous au Portugal. Là, on est tout au nord du Portugal, à la frontière avec l'Espagne. On voit également toutes les étapes, c'est-à-dire comment on va agglomérer la farine pour créer des grains. Alors, on n'obtient pas un couscous comme celui du Maghreb. On obtient un couscous beaucoup plus aggloméré, agglutiné, qui ressemble à du riz. Les pays, notamment les pays européens, ont eu des empires coloniaux partout dans le monde. Et donc, c'est pour ça que le couscous est allé du Portugal jusqu'au Brésil. Il a suivi, en quelque sorte, les hommes, quoi. Le couscous n'existe pas qu'au Maghreb.
Portugal.
Mais aussi Sicile, mais aussi Espagne. C'était ça que je voulais aussi montrer dans cette exposition, c'est-à-dire des éléments que le public n'a pas forcément l'idée de voir ou de découvrir.
Et ben voilà, merci Édouard Delaubry pour ses confidences au micro de Julien Amat. C'est vrai que c'est passionnant. Alors, je pense, tiens, à l'instant à Frédéric Grasser-Hermé, qui est auteur culinaire et qui a gagné un championnat du monde de couscous. Vous savez, en faisant quoi ? En remplaçant la graine par du pain rassis. Qu'elle a fait sécher et lui a redonné la consistance de cette graine.
Oh, quel boulot.
En Sicile, parce que le couscous est très implanté aussi en Sicile. Incroyable. Par ses apports et ses influences. Allez, tiens, on va continuer cette belle visite d'exposition du Mucem avec une devinette. Je suis né à Bagdad, j'ai d'abord été un Médoc avant d'être un bon bec. On me croque aujourd'hui en Provence et même dans la Drôme. Qui suis-je ? Les habitants de la Drôme.
Donc d'abord un médicament avant d'être un bonbon. Les bonbons de la Drôme, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer?
Les bonbons de la Drôme. Remonter, je ne sais pas, moi, Montélimar.
Ah, le nougat.
Le nougat. Ben oui.
C'était un médicament?
Exactement, au départ c'était un médicament. Il était utilisé pour des raisons médicinales. Mélange de miel, de sucre, de fruits secs pour lutter contre les toux et les pleurésies. Et grâce au commerce et aux conquêtes, eh bien, le nougat, il était adopté et adapté à Montélimar au XVIIe siècle avec l'introduction des amandiers en Provence. Ouais, donc c'est amusant comme toutes ces influences justement nous nourrissent au fil des siècles. Mm-hmm. On rappelle tiens cette expo, hein, c'est intéressant Charlotte.
Le Grand Mezzé au Mucem de Marseille, donc dans le 2e arrondissement jusqu'en décembre 2023. Tarif 11 euros, vous retrouvez toutes ces infos sur europe1.fr.
Et n'oubliez pas le guide, hein, messieurs, dames. Et c'est vrai que ça fait du bien hein, de remonter le fil de nos origines gastronomiques. Et pour retrouver les adresses dont on parle, comme pour les recettes, hein, nos débats et nos dossiers, c'est la même chose. Il y a notre newsletter à table.
Fantastique newsletter.
Chaque dimanche matin, dans votre boîte mail, il suffit de vous abonner sur le site europe1.fr. Et c'est la même adresse pour le podcast. Et vous retrouverez les jolis moments de table de votre marché du midi de l'été aussi, Olivier Pouls, dans cette newsletter.
Hein. Entre autres, tous les jours, un chef... un produit et un producteur.
Allez, ne bougez pas, on revient après la pause avec notre dossier spécial cuisson. On va saisir, mijoter, étuver, griller. Bref, ça va chauffer.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Rôtir, braiser, bouillir, frire, cuire à la vapeur.
Griller,
oui. Saisir.
Mais oui, c'est vrai que le dictionnaire des cuissons est infini. Alors Stéphane Lagorce, qui est ingénieur et professeur des sciences de l'aliment à AgroParisTech, est venu nous en parler il y a quelques mois de ses cuissons. Et cet ancien chef vient de sortir Le Grand Précis des cuissons au poil. C'est un livre passionnant où il est bon de rappeler que derrière une recette réussie, eh bien, il y a une cuisson maîtrisée. Stéphane Lagorce.
Finalement, on pratique les cuissons souvent de manière un petit peu pas répétitive, mais on nous dit de faire d'une certaine manière, on applique la
ce
cuisson. Souvent, d'ailleurs, quand vous regardez dans des livres de cuisine, en fait, vous avez un énoncé de la recette qui est assez lent et à la cuisson, c'est mettez au four, faites cuire en bouillant ou des choses assez courtes finalement. Or, cette petite ligne très très courte, elle est beaucoup plus complexe et tout à fait passionnante.
Le four peut être vif au départ et ensuite on peut le baisser. L'ébullition peut être à frémissement ou grande ou petite.
Ce qui change absolument tout. Mm-hmm. Et en fait, les cuissons sont truffées de petites subtilités comme ça. L'ébullition, par exemple, en fait, la différence entre une ébullition forte et modérée, disons, c'est qu'en fait, la chaleur passe plus vite de l'eau vers l'ingrédient, même si on est toujours à 100 degrés. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça qui paraissent subtiles et passionnantes.
On va s'arrêter sur l'ébullition, tiens, justement. Hein. C'est vrai que, comme vous le dites, les petits frémissements, les gros bouillons, c'est pas la même chose. Alors, quelle puissance pour quel ingrédient et pour quelle cuisson, par exemple ?
Alors, par exemple...
Les pâtes, allez.
Alors, les pâtes, où on veut une cuisson...
Je veux pas des coquillettes ratatinées et mollassonnes.
Alors, dans ce cas-là, il faut faire une cuisson qui sera plutôt lente, c'est-à-dire qui donne à la fois le temps à la pâte de cuire, c'est-à-dire que la chaleur transforme l'amidon qui est dedans, et l'eau de pénétrer un petit peu dans la pâte. Parce qu'en fait, c'est une cuisson, hydratation, comme on dit. Les deux se passent à la fois.
Mais lente, ça veut dire quoi ? Petite ébullition ou gros bouillon ?
Oui, en fait, on n'a pas besoin forcément d'avoir une ébullition ultra forte pour des coquillettes qui ont une forme un petit peu spécifique. Hein,
Ah oui, je parle Voilà, vous parlez des coquillettes. Parce que si je fais des penne, par exemple...
Ah oui, c'est dur avec les formes des pâtes, al dente ou pas, etc.
Le problème des pâtes, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a tellement de formes différentes que ça appelle...
Oui, il y en a certaines qui ont besoin de gros bouillons. Hein,
par exemple, les spaghettis, c'est un peu plus conforme parce que comme ce sont des petits tubes très très longs qui développent une surface très grande, en fait, on a besoin de les cuire plus vite. Enfin bon, je
pense. C'est passionnant. Et vous expliquez tout ça dans le livre qu'Olivier lisait religieusement encore à 11h.
C'est Olivier qui l'a.
Non mais j'adore ce livre. Tout le monde devrait l'avoir et surtout les chefs devraient l'avoir parce que vous savez, beaucoup de chefs font des recettes parce que on leur a montré, on leur a expliqué, mais ils ne savent pas pourquoi on fait comme ça, justement. Et vous décortiquez de manière scientifique et vous nous expliquez de manière scientifique pourquoi à un moment on doit mettre un couvert sur une casserole ou pourquoi il ne faut pas le mettre, pourquoi on doit démarrer à four froid ou pourquoi on doit démarrer à four chaud. Et quand on comprend, ça donne tout de suite une autre perspective.
Alors on rentre, dans la saison des langoustines, par exemple. Ça, c'est un produit délicat, on en parle régulièrement.
Hyper
ici.
Dur à cuire.
Hyper dur à cuire, mais saisi dans de l'huile d'olive, on sait que c'est délicieux, hein, à peine aller 2 minutes. Hein, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, c'est des produits qui cuisent extrêmement rapidement et qui ont besoin d'avoir un flux de chaleur très brutal, très fort et très court. Donc, si je reviens à l'ébullition,
on peut les cuire au courbouillon.
Là, on a besoin d'une ébullition forte qui va transférer la chaleur immédiatement de l'eau à la langoustine. Et pour avoir quoi ? Pour avoir la texture si délicate et croquante des langoustines bien cuites. Quand vous avez une langoustine qui soit un petit peu pâteuse, vous savez comment ça fait un petit peu
cotonneuse,
molle.
Oui.
Trop de cuisson, c'est ça. Ébullition faible ou trop de temps à la poêle ou trop de quantité dans la poêle qui changent le régime de cuisson.
Et combien de temps pour des langoustines, alors, par exemple?
Dans un courbouillon bouillant.
Bien assaisonné. Oh,
bien assaisonné. Mais on parle presque en dizaines de secondes. Hein. Alors, tout dépend de la quantité que vous allez mettre.
Oui.
Mais,
et de la taille des langoustines.
Oui, de la taille des langoustines. Mais on est entre 45 et une grosse minute pour des bêtes un peu plus conséquentes.
C'est quoi. Ça, il faut peut-être revenir sur des légendes de cuisson, en fait, qu'on faisait toujours. On avait tendance de faire tous les légumes à l'eau. Par exemple, je ne sais pas moi, mais les petits pois qui sont en train d'arriver, je ne les fais pas à l'eau. Moi, je les fais à la poêle juste pour les réchauffer. Je les mange quasiment presque crus, en fait. Crus, cuits, réchauffés. Et il y a beaucoup de plus en plus de gens qui font ça. C'est une erreur ou je me trompe?
Vous n'avez pas besoin de mon livre, parce que vous avez tout compris. Vous avez tout à fait raison. Parce qu'en fait, quand on cuit les petits pois à l'eau, en fait, il se passe un phénomène qu'on ne voit pas. C'est qu'il y a beaucoup de saveurs qui passent dans l'eau. Qui passe dans la vapeur et qui se retrouve dans votre cuisine. D'ailleurs, ça sent les petits pois quand vous le cuisez,
comme
mais le goût, il est plus dans les petits pois. Donc, du coup, de cuire les petits pois à la poêle, c'est tout à fait légitime et c'est même très bien, d'autant plus que dans le petit pois, il y a bien assez d'eau pour le faire cuire.
Il y a les poissons aussi. Vous accordez un chapitre aux poissons dans votre livre. Alors, ça, c'est passionnant parce que vous dites que les poissons vivent dans l'eau, sont pleins d'eau, mais en même temps, ils font des transferts d'eau. Racontez-nous ça. Ça, c'est passionnant.
C'est une des raisons pour lesquelles les poissons cuisent si vite. Enfin, les poissons maigres, surtout, qui sont si difficiles à cuire, c'est que pendant leur vie aquatique, en fait, si vous voulez, en fait, l'eau dans laquelle ils nagent, en fait, ils échangent leur propre eau avec l'eau qui est à l'extérieur. Je ne vais pas tout rentrer dans les détails, mais et donc du fait, la structure de leur filet, si vous voulez, est extrêmement poreuse, pour le dire vite, et donc extrêmement réceptive, réactive à la cuisson.
Oui, comme dit Jean-François Piège, ça cuit de peur, le
poisson,
et c'est vrai.
Oui, ça cuit de peur, j'ai dit cette expression, j'aime bien.
Alors, bonne cuisine, chers auditeurs, si vous êtes en train de la faire. On continue, tiens, on va parler de la cuisson au micro-ondes, on va parler du poulet rôti du dimanche, cette fameuse cuisson par convection, et puis on va aussi parler des fritures. On revient au chaud, juste après ça.
La table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Les secrets des cuissons sont infinis. Pour les découvrir, nous sommes avec Stéphane Lagorce, ancien chef, ingénieur, professeur des sciences de l'aliment et auteur du grand précis des cuissons au poil chez Homo Habilis. En commande sur le site d'Homo Habilis et en librairie. Il est passionnant. Alors, on va sortir de l'eau. Tiens, on était dans les ébullitions. Maintenant, on va se réchauffer avec la température du four et de la flamme. On devient cuisinier, mais on est rôtisseur du verbe naître, disait Brillat Savarin. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, c'est une cuisson qui est fort complexe, qui à la fois, quand on la pratique, semble simple. On ouvre une porte, on met, on ferme et on attend. C'est vrai que dit comme ça, ça paraît tout simple. Mais en fait, de bien percevoir ce qui est en jeu là-dedans, ça demande beaucoup de sens d'observation. Et je pense que Brillat Savarin avait vraiment ça en lui à l'époque.
Et demain, c'est dimanche. De nombreux auditeurs vont faire ce beau poulet rôti qui réunit la famille et les amis.
Et c'est toujours un débat de cuisson.
Alors, départ à froid, le four, départ à chaud, tiens déjà.
Alors, sur ce cas-là... Tout dépend en fait du résultat final. Alors, si on veut quelque chose,
on veut une peau croustillante et on veut une viande fondante.
Ah bah voilà. Donc du coup, on veut ce qui est le plus compliqué. Dans ce cas-là, on sera quand même plutôt à démarrer à chaud. Et ce qu'on va faire, mais ce qu'on fera dans beaucoup de cuissons au four, c'est qu'on va commencer relativement chaud pour obtenir une coloration satisfaisante.
Et on met du sel pour que ça...
Oui, je ne l'ai pas dit, on assaisonne avant, qui déshydrate très légèrement la périphérie, qui facilite la coloration. Et ensuite, on va plutôt à baisser la température, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des produits qu'on cuit au four, au fur et à mesure de leur cuisson, ils deviennent isolants. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait surprenant.
Donc plus la température ne rentre plus.
Plus ils cuisent, moins ils cuisent. Et là, ce qui est complètement contre-intuitif, ce qu'il faut faire, c'est baisser la température pour que la chaleur continue à pénétrer le poulet, le gâteau, la
brioche. Quelle température ? On commence à combien ? À 200, 220 ?
Là-dessus, je dirais que oui, 220, c'est déjà relativement haut. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça dépend. Le problème, c'est que c'est souvent une réponse d'alarmement. Ça dépend. Ça dépend de la convection, c'est-à-dire de la vitesse à laquelle votre petit ventilateur au bout du four, il tourne.
C'est pour ça qu'à chaque fois, les gens ne sont jamais d'accord les températures et sur les temps de cuisson au four. Parce qu'on n'a pas tous le même four.
Parce que là, Laurent, vous touchez du doigt un aspect de la cuisson, qui est l'aspect que j'appelle moi qualitatif. Le quantitatif, c'est quelle température, combien de temps. Mais le qualitatif, c'est beaucoup d'aération, beaucoup d'humidité dans le four. Et ça, ça dépend de tous les fours que les gens ont. Et donc, du coup, moi, dans mon livre, j'essaie de donner un peu les grandes idées, les grandes notions, mais finalement, tout s'adapte.
Et alors, si on rajoute une papillote?
En fait, si vous mettez une papillote de poisson, vous enfermez l'eau contenue dans le poisson qui va se vaporiser. D'accord. Donc, vous créez une légère surpression qui vous augmente la rapidité de cuisson. En fait. Donc, ça va bien pour les cuissons qui
c'est de la chimie.
Moi, j'ai besoin qu'on parle de la friture quand même.
Le Belge qui revient avec ses frites. On va en parler dans un instant, voilà. Olivier de la friture. Mais juste avant, je voudrais qu'on poursuive ce que vous disiez. C'est très intéressant sur cette chaleur qui saisit comme ça, qui fait une coque et ensuite elle isole et elle protège l'intérieur. C'est le même principe que la brioche que vous venez d'apporter.
Voilà. Je vous ai mis une petite brioche. Donc j'ai appliqué à moi-même le principe que je vous annonce. C'est-à-dire que j'ai commencé relativement chaud, 170, et j'ai terminé vers 140. Donc, en fait, un gâteau, quand il cuit dans un four, il gonfle. C'est d'ailleurs ce qu'on lui demande. Et quand il gonfle, les petites bulles d'air, en fait, deviennent isolantes. Elles empêchent la chaleur de rentrer. Donc, évidemment, on veut mettre plus chaud. Donc, ça brûle encore plus, ça isole encore plus. Et il faut faire le contraire. On baisse la chaleur du four et ça permet d'avoir, enfin, j'espère que vous le trouverez, ça donne des brioches qui sont extrêmement moelleuses.
Oui, humides,
encore cuites, mais très fondantes et chose qu'on n'a pas si on fait une cuisson linéaire, c'est-à-dire même température tout le long.
Pareil pour les cakes, il faut faire la même chose.
Tout ça fonctionne de la même façon.
Pour pas que ce soit sec à l'intérieur.
Voilà, il faut vraiment l'essayer parce que ça fait vraiment une différence, c'est tout simple.
On vous mettra la recette de cette belle brioche de Stéphane Lagorce sur notre site europe1.fr à la page des bons vivants. Alors, venons-en à la friture.
Trépigne.
Alors, la friture, on entend souvent, mais non, la friture, c'est pas gras. Alors, c'est gras ou c'est pas gras, la friture?
On n'ira pas peut-être jusque-là, mais...
on n'ira peut-être pas combien jusque-là, surtout devant un expert, Olivier, je ne sais pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les produits de la friture deviennent gras, pas pendant qu'ils cuisent, mais au moment où on les égoutte. Quand on les sort, parce qu'en fait, pendant qu'ils cuisent, ils sont gonflés, la vapeur sort de la frite, de son drap, et donc ça crée une surpression qui empêche l'huile de rentrer. Et c'est quand on les égoutte que la chaleur baisse forcément, que le produit se rétracte et aspire toute l'huile qui est autour. Donc du coup, le secret, c'est quand on égoutte immédiatement papier absorbant. Mais c'est pas dans 5 secondes ou dans
tout de suite.
Immédiatement. Et là, vous avez des fish and chips, des frites qui sont
qui seront plus croustillants parce qu'on va garder justement cette pellicule extérieure qui ne sera pas trop imbibée de gras et qui ne va pas ramollir.
Exactement.
Il n'y a qu'à voir le gras qui reste sur le papier absorbant. On s'en rend compte, mais c'est important ce geste. Égoutter papier absorbant pour les frites, pour les beignets de crevettes,
aussi. Voilà. Tous les produits frits, les beignets, les merveilles, enfin toutes ces petites choses délicieuses. Alors, j'ajoute un mot, c'est que la friture, c'est la friture qui donne le plus de goût. L'interaction entre le produit dans l'huile génère tellement de saveurs et c'est d'ailleurs pour ça qu'on aime tous.
C'est pour ça qu'on aime bien. Et une question tient à propos du micro-ondes. De nombreux auditeurs ont un micro-ondes. Déjà, vous êtes un adepte de la cuisson au micro-ondes ou
J'ai pas de prévention, c'est une cuisson très intéressante. Le problème du micro-ondes, c'est que le plus souvent, on met dans le four, on appuie sur le bouton et on ne règle pas. On se prend 900 watts là-dedans et ça met toujours au plus fort. Voilà, il faut être plus subtil, il faut régler, il faut chercher.
On a raconté souvent, moi j'ai eu des discussions avec des médecins qui expliquent que le gras chauffé au micro-ondes ne serait pas bon pour la santé, que les molécules du gras se transforment et auraient des incidences sur le système nerveux. Vous avez entendu parler de ça ou pas?
Je pense que cette remarque, elle est fondée lorsque effectivement les gens mettent un produit au micro-ondes riche en gras, qu'ils le mettent à 900 watts pendant je ne sais pas quelle minute, qui provoque des échauffements, ce qu'on appelle des échauffements locaux, dans un endroit très très précis du produit, qui surchauffe,
localisé,
qui surchauffe, qui surcuit, qui polymérise, comme on dit dans le jargon, et qui crée des composés qu'on ne veut pas avoir. Mais ça, c'est parce qu'on est dans un cas d'utilisation presque extrême du four micro-ondes qui n'a pas lieu d'être.
Enfin, finalement, on dépasse pas quoi, 600 watts, plutôt quitte à mettre un tout petit peu plus fort.
Moi, je trouve que la plage des 300, 400, voire 500 watts, elle est largement suffisante pour faire les choses. Il n'y a pas besoin de puissance comme ça.
Vous entendez, c'est passionnant, grand précis des cuissons au poil. Merci Stéphane
Lagorce. Ça va être mon livre de chevet.
Oui, mais j'ai vu, vous l'avez déjà bien repéré. De la chipolata au caramel mou, le grand précis des cuissons au poil aux éditions Homo Habilis. Merci Stéphane Lagorce d'être venu à la table des bons vivants.
Merci à vous tous.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, chers amis, et bonne route si vous êtes sur celle des vacances ou sur celle du retour. Comme tous les samedis à 7h ici, on déplie les rallonges pour accueillir nos invités. Et on profite de l'été pour retrouver leurs meilleurs coups de fourchette et puis leurs coups de gueule aussi parfois. Et c'est vrai que depuis 3 ans, nous avons reçu des bons vivants. Est-ce que vous avez
un
souvenir marquant, Charlotte et Olivier?
J'ai même un top 3 si vous voulez. Moi, j'ai Gaëtan Roussel récemment qu'on a reçu en Normandie pour son rayonnement talent et puis sa vraie connaissance de la cuisine. J'ai Patrick Peloux qui m'avait beaucoup touchée, son émotion à parler de la table et des amis qui vont avec.
C'est
et
vrai.
Puis Joe Starr pour son appétit fou et son ami Eric Hospital. Alors le duo était, je m'en souviens encore.
Et un vrai cuisinier, hein, Joe Starr, attention, c'est quelqu'un qui ne plaisante pas avec la nourriture, il cuisine au quotidien, vraiment. Ouais. C'est un muscle pour lui, la cuisine. Comme la mauvaise foi, c'est lui.
Ah ben écoutez, moi, il y en a plein aussi. Moi, j'ai adoré Nicoletta parce que j'ai découvert qu'elle était une cuisinière incroyable et qu'elle connaissait vraiment sa cuisine. On l'a entendu il y a encore quelques semaines raconter les anecdotes qu'elle avait avec des stars dont on n'imagine même pas qu'elle ait pu les rencontrer.
La soupe à l'oignon avec Jimi Hendrix, absolument.
Fantastique, une grande cuisinière. Et puis j'ai adoré le duo composé de Olivier Marchal et de
Gérard
Lanvin. Je me souviens, j'avais apporté ici une bouteille de Pommard. Alors, je crois qu'elle n'a pas tenu 10 minutes.
c'est pas moi qui l'ai
on
dit.
On pourrait faire des podiums, ouais.
Alors ce samedi, on va se mettre à table avec Patrick Fiori, Gaëtan Roussel, justement, vous en parliez, Charlotte, et puis Christophe Bourseiller, trois beaux mangeurs.
Ah oui, un très très bon client aussi,
exactement.
Pour la table des bons vivants.
Mais d'abord, on écoute Hélène Ségara, chanteuse et cuisinière avertie. Et pour l'accueillir, Charlotte, vous lui aviez apporté une pâtisserie un peu spéciale, vous vous rappelez?
Oui, je vous laisse découvrir.
Un gâteau au CBD. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoutez.
J'ai un petit marché à côté de chez moi et je craque pour les kakis.
Ah.
Tout le monde n'aime pas le kaki, mais le kaki, quand on sait choisir qu'il est bien mûr, c'est vraiment un fruit délicieux.
Oui, parce qu'il y en a deux, vous avez raison, il y a le
persimmon qui est plus dur, oui.
Ouais, et qui est lui un peu plus astringent, on va dire. Mais alors l'autre, quand il est bien mou, bien mûr, il y a un petit goût de date, je trouve.
Exactement,
moi, dedans,
hein. Il fait un peu confit.
Vous le mangez au petit-déj, vous le mangez comment?
N'importe quand, là, j'en ai mangé un hier soir et j'en mange souvent le matin, ouais. Et en plus, c'est plein de fibres. Il faut savoir que moi, qui ai suivi un programme diététique pendant très longtemps, eh bien, c'est pour nous, c'est zéro point, un kaki. C'est-à-dire qu'on peut se faire plaisir à quelque chose de sucré sans prendre un gramme.
Et oui, on en parlera parce qu'on vous voit en ce moment beaucoup à la télévision faire de la publicité. Et vous nous raconterez tout à l'heure, justement, quelques petites choses étonnantes et amusantes autour des recettes. La cuisine fait partie de votre vie. Ça vous détend de cuisiner?
Oui, c'est vrai. Ça me détend. Et surtout, c'est une manière de partager pour moi. J'ai appris à cuisiner à l'âge de 11 ans. Avec ma grand-mère italienne. Et ça fait partie, pour moi, c'est la normalité. C'est-à-dire que mes enfants n'ont jamais mangé un petit pot. Je ne me vois pas leur faire des surgelés. Donc voilà, c'est un vrai plaisir, mais en même temps, une vraie philosophie. C'est-à-dire que pour moi, la santé commence dans l'assiette.
Une discipline du quotidien, on peut dire.
Une discipline, c'est quelque chose à laquelle on doit s'astreindre. Là, c'est plutôt un plaisir, quoi.
Alors, à propos de plaisir, tiens, Charlotte Langrand qui est à côté de vous, qui êtes-vous? C'est Alice qui apporte un gâteau, vous allez voir, on va tout vous expliquer. Vous allez nous montrer, Charlotte, les vertus apaisantes d'un ingrédient nouveau en cuisine, c'est le CBD, une molécule issue du chanvre et qui a inspiré un grand pâtissier avec ce gâteau étonnant.
Oui, regardez-moi ce gâteau appétissant.
On dirait un petit nuage.
Voilà, il s'appelle Cyrus, il a une forme de nuage bien dodu, il est presque comme en lévitation.
Mais c'est un nuage.
C'est là que son auteur a de l'humour, hein, c'est le grand pâtissier Philippe Conticini, parce que c'est le premier gâteau haute pâtisserie qui contient du CBD, c'est-à-dire l'une des molécules appelées cannabinoïdes qui sont présentes dans le chanvre, le cannabis. Alors attention, je vous rassure, je ne suis pas en train de vous servir un space
non,
cake.
Non, mais le CBD, il n'y a rien.
Un samedi matin sur Europe 1. Non, contrairement à son voisin, le THC, bien connu pour ses actions psychoactives, le CBD ne comporte aucun effet psychotrope.
Oui, ça je sais.
Voilà. Et la Cour européenne, d'ailleurs, vient de définitivement exclure cette molécule de la catégorie des stupéfiants.
Il paraît quand même toutefois qu'il aide à dormir, le CBD, sans avoir les mauvais effets d'une drogue, et qu'il aide aussi pour les gens qui peuvent être épileptiques, etc.
C'est vrai. C'est ça. Alors racontez-nous, justement, ça a des effets pour la santé,
c'est
justement.
C'est ça. Ce petit nuage pâtissier est parfaitement légal et ne fera pas planer. Et en revanche, le CBD, il a été utilisé en Asie, par exemple, depuis des millénaires pour soigner les rhumatismes, la goutte. Et depuis, il y a des études qui ont mis en valeur ces propriétés, comme vous le disiez. Antispasmodique, antidouleur, anti-inflammatoire, il apaise les douleurs chroniques, il réduit le stress. Bref, elle calme, elle apaise, elle relaxe. Et aujourd'hui, on en trouve même dans les cosmétiques aussi et donc dans la nourriture. Par exemple, à Paris, vous avez une marque qui s'appelle le Chanvrier français qui propose une infusion, un miel, des Energy Balls au CBD. À Nice, il y a même un chef qui vient de faire une pizza à la crème fraîche et à la fondue de poireaux avec saupoudré dessus, comme de l'origan. slogan des fleurs de CBD.
C'est rigolo. Alors, est-ce que la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est un intérêt gustatif? Tiens,
là, ce qu'on mange, c'est une petite mousse au citron très agréable.
On sent surtout le citron. C'est vrai que le chanvre,
ça
n'a pas de goût. Là, il est neutre. Là,
voilà. C'est, en fait, comme toute herbe utilisée en cuisine, on peut s'essayer à la cuisiner. Donc, il faut. Elle fait partie de la famille des plantes adaptogènes, comme le basilic sacré, par exemple. Il existe toute une variété de fleurs de CBD. Le chanvrier français, ils en distinguent, par exemple, il y a la lemon skunk qui a des notes d'agrumes, ou la cookie kush.
J'ai un éléphant qui me pousse dans le dos.
Qui tend vers le chocolat et la menthe. Alors donc, il faut savoir quand même la doser ou la cuire. C'est une herbe, il ne faut pas non plus trop en mettre. Et il y a même un livre qui est paru chez Marabout qui vous donne les recettes. Et là, si vous êtes intéressé par cette substance, ce n'est pas seulement pour le fun. Philippe Conticini, il a aimer son petit goût un peu amer.
Voilà. Alors ce que je veux dire. On a un deuxième goût qui arrive en bouche. Qui
est lait.
Voilà. C'est pas très désagréable. Non, moi, je trouve ça plutôt bon, ce qu'il a fait. Je trouve qu'il a bien dosé.
Une amertume profonde, quand même, qui reste.
Profonde, tu trouves?
Ah ouais, je trouve.
Tu es très sensible de la
amertume. Oui, je suis très sensible à ces trucs-là. Mais c'est
et
vrai.
Vous aviez raison. Donc, c'est une crème au pamplemousse, à l'orange sanguine et au citron jaune, saupoudrée de quelques baies de thymut broyées et insérer donc dans cette crème quelques gouttes de CBD.
Donc on peut le trouver dans les magasins, ce CBD, pour le cuisiner comme ça?
Ah oui, bien sûr, vous pouvez le trouver sous forme d'huile, sous forme d'herbe. Vous pouvez vraiment, il faut juste vous renseigner en général dans les boutiques qui vous expliquent bien comment ça se passe.
Une boisson pour dormir aussi. Voilà. Mais en fait, il faut se dire que la nature nous a tout donné. On en a fait une drogue récréative, mais à la base, effectivement, le CBD était vraiment un remède pour plein de choses que tu as citées. Et je trouve que c'est dommage que les gens aillent vers des molécules chimiques aujourd'hui, alors que les plantes peuvent soulager beaucoup de maux.
Et oui, on n'est pas dans la synthèse, là, effectivement. Et attention, c'est pas le THC, là. Hein.
Oui, c'est pas du tout le THC. Il n'y a aucune substance psychotrope. Et surtout, par contre, il faut quand même savoir que c'est pas donné, parce que c'est trois fois plus cher que le caviar ou la truffe. Ce petit gâteau de 150 grammes a quand même son prix. Il coûte 22 euros, mais on peut quand même aller goûter ça chez Philippe Conticini. Ou ailleurs, le miel, pour faire une petite eau chaude le soir avec un peu de miel, c'est très bien.
Ah bah écoutez, c'est pas
on
mal.
Dort très bien.
En tout cas, je vois que ça vous plaît, Hélène Ségara, ça fait plaisir.
Mais moi, j'adore manger.
Mais c'est pour ça que vous êtes là, figurez-vous. Et puis chantez, nous on aime les deux, justement. Les nourritures terrestres et spirituelles, ne bougez pas. Bonne cuisine, si vous êtes en train de la faire. A tout de suite, on revient.
11h30 sur Europe 1, le meilleur de la table des bons vivants.
Toujours l'accord aussi local en fonction de la provenance du saucisson.
Ferme les yeux, c'était de la poésie. Aïe.
Mais c'est délicieux.
Il y a un petit goût de date, je trouve.
Exactement. Moi, il fait un peu confit.
Europe 1, 11h30. J'ai une passion pour les frites.
Ah, bah bienvenue
J'adore
au club.
J'adore les frites. La table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Et il n'y a pas de saison pour les frites. Même à la mi-août, ça marche, frites.
C'est ça qui est bien.
Ah non, mais vous faites un cornet de frites avec une sauce simplement à picorer comme ça. Quelle que soit la saison, les gens sont heureux.
Oui, un petit fromage blanc moutardé, ça marche aussi pour tremper ses frites.
Et à tous les âges.
Bon samedi sur Europe 1, bon été, bonnes vacances. Alors l'été, c'est justement l'occasion de ralentir le rythme. Profitons-en, tiens, pour retrouver avec délices les moments partagés à table avec nos invités. Vous le savez, on aime bien de temps en temps délocaliser notre émission. Et vous en avez parlé tout à l'heure, Charlotte. Cette année, nous étions en direct d'une ferme de Normandie avec le chanteur Gaëtan Roussel. Il a même chanté au milieu des vaches. Son dernier titre, d'ailleurs, Je me jette à ton cou, extrait de son dernier album Est-ce que tu sais ? C'était un très joli moment.
Très beau souvenir.
On a découvert aussi l'historien politologue Christophe Bourseiller, qui est très pointilleux sur la blanquette. Mais avant, voici une belle séquence. C'est la recette de famille de Patrick Fiori, les feuilles de vigne de sa maman Marie-Antoinette. Et côté générosité, écoutez, il a de qui tenir, Patrick Fiori. Depuis quand vous vivez encore
sans Depuis l'âge de 17 ans à peu près.
C'est ça.
Voilà. Donc ma mère est née là-bas. Elle est née dans la vieille ville, rue de l'Assomption, du côté de la rue Fèche, dans le centre d'Ajaccio. Et puis ensuite on est allé vivre à Marseille, voilà, pour des raisons familiales. Et puis ensuite on est retourné en Corse. Donc voilà, la Corse c'est un endroit très particulier, quoi. Donc un endroit que j'adore.
Votre maman Marie-Antoinette qui cuisine très bien.
Elle cuisine très très bien. Elle cuisine très très bien corse. Elle cuisine très très bien la cuisine française bien sûr. Et puis la cuisine arménienne aussi.
Voilà. Et oui,
c'est une grande grande spécialiste parce que mon papa est d'origine arménienne et donc évidemment par amour, elle a décidé de cuisiner tous les plats pour lui et d'apprendre avec ma grand-mère, donc côté paternel, d'apprendre avec ma grand-mère tout ce que cet homme allait avoir envie de manger.
La vraie transmission.
Ben oui, la vraie transmission.
Eh bien, elle est avec nous au téléphone, votre maman, Marie-Antoinette. Bonjour Marie-Antoinette.
Bonjour.
Merci d'être là, ça fait plaisir de vous entendre.
Oui, mais moi aussi.
Vous savez que vous avez une belle réputation de cuisinière, hein?
Je sais que j'ai une belle réputation, oui. C'est mon fils qui l'a fait. Hein.
Oui, ouais, mais c'est bien, il en parle bien, il en parle bien. Alors, on parle souvent de vos feuilles de vigne farcies. On connaît les feuilles de vigne farcies à la grecque, mais celles que vous faites, elles sont complètement différentes, racontez-nous.
Ah non, ceux-là, ils ne sont pas grecques. Hein. Ça, c'est la cuisine carrément arménienne. Hein. Parce que les Grecs mettent du riz dedans.
Oui.
Et nous, on met du boulgour. C'est du blé cassé.
D'accord. Et maman, tu mets combien de farce, en fait? Tu mets combien de viande?
Alors,
pour les faire?
Alors, justement, j'ai copié pour 8 personnes dans un grand récipient.
OK. Hein,
vous mettez 2 kilos d'oignons hachés. 3 gousses d'ail hachées aussi.
Très bien.
Persil.
Oui.
Coriandre.
Yes.
Cumin.
OK.
Curry.
OK.
Pigne de pain.
Ah oui.
Ah oui, les pignons, bien sûr.
Oui, les pignons de pain.
Hey, d'accord. Mais oui.
Voilà. Après, alors, à part, tout ça, c'est pour mettre tout dans le récipient.
D'accord, hein, le fameux grand récipient.
Deux gousses d'ail à part que vous mettez dans la marmite.
C'est très bon pour la santé,
là. Cru, comme ça, cru. Hein,
antioxydant.
Avec 5 tomates.
Oui.
5 tomates fraîches. Voilà. Et 2 poules au pot.
Oh! Deux poules au pot
pour 8.
Mais vous deux poules au pot.
Vous les sortez d'où, vos poules au pot?
Ah ben, les poules au pot, on les achète. Hein.
Ah oui, les poules au pot. Ah oui. Peut-être que pot au feu, je dois peut-être
les dire. Ah, les poules au pot, c'est les bouillons, vous voulez dire?
Oui, c'est les bouillons.
Les bouillons, voilà.
Ah, je croyais que c'est deux grosses volailles en chair, plutôt pot, moi.
Non,
d'accord, j'ai compris.
D'accord, maman. Ensuite, vas-y, maman.
Alors, ensuite.
Accrochez-vous.
Ça, c'est pour 8 personnes.
Oui, on a bien compris.
Dans votre grand récipient, vous mettez une petite cuillère et demie de piment.
Oui, et la viande, elle arrive quand? Parce que vous nous promettez la viande.
Alors, la viande, c'est 1 kg d'agneau haché et 1 kg de bœuf.
Oh, ah, voilà. D'accord.
Ah, oui, le mélange
voilà.
De bœuf.
Ah. Tout ça dans le même récipient. Hein?
Toujours.
Voilà, toujours. Hein? Alors, la feuille de vigne, je la prends entière. Elle vient de Marseille, ou il y en a à Paris aussi. Hein?
Bien sûr.
Dans les machins arméniens. Alors, au milieu, je mets tout ce que j'ai préparé. Voilà, je roule ma feuille avec la queue, je la serre et ma viande, elle est au milieu. Elle cuit avec le boulgour, c'est-à-dire avec le blé cassé. Il y a du blé cassé dedans.
Absolument,
aussi, hein,
oui, absolument. Non, mais ce que voilà, je voulais savoir, c'est quand vous avez mis votre farce dans les feuilles de vigne, est-ce que vous refaites cuire ça quelque part au four ou dans un bouillon ensuite? Comment vous faites?
Alors, moi, j'ai une grosse marmite exprès, plate, avec son machin. Je les serre les uns contre les autres.
Ah oui, c'est très serré, c'est une cuisson très serrée.
Bien serré. Une fois que ma marmite, elle est bien en place et tout, avec mes feuilles de vigne, alors je jette ma sauce dessus. Je mets aussi des oignons pelés dedans, comme ça, hein, en vrac. Hein,
en vrac, très bien.
Eh ben, voilà.
Il y a un bouillon par-dessus, c'est ça. Et vous faites cuire
voilà,
tout ça.
Et le bouillon.
Pour cuire combien de temps ensuite? Une heure et demie,
deux
je suppose.
Heures, ouais.
Ah oui, une heure et demie, oui, c'est pour ça. Compter. Hein.
2 heures de cuisson.
Eh bien, merci Marie-Antoinette.
Un petit feu, hein, attention.
Un petit feu. Oui, on va le dire aux gens, maman. On va le dire aux gens, petit feu, t'inquiète pas.
Merci Marie-Antoinette et on vous embrasse.
Allez.
Merci beaucoup pour cette recette. On vous embrasse et on vous aime. Et effectivement, ça n'a rien à voir.
Merci maman.
Ça n'a rien à voir avec les feuilles de vigne à la grecque, avec le riz. Là, il y a une belle farce avec, on l'a compris, du bœuf et de l'agneau à l'intérieur.
Mais je crois qu'il vaut mieux que je vous en amène pour mieux comprendre.
Oui, mais vous reviendrez.
Ah oui, c'est technique, c'est super
c'est technique. Mais c'est surtout que là, en fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est là, dans sa 8 personnes, il faut compter à peu près 350 feuilles de vigne.
Oui, oui.
Là, elle vient d'enrouler 350. Donc en fait, on est 8, mais comme on est des très gros mangeurs à la maison, on massacre tout.
Mais bien sûr.
C'est-à-dire que c'est tellement bon, mais je vous promets, c'est tellement
bon. Mais ça fait envie.
Excellent.
Mais c'est la cuisine familiale, c'est la cuisine qui fait qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on parle en chantant, comme
bien
vous
sûr,
disiez tout à l'heure.
Moi, je me réveille la nuit pour les feuilles de vigne. Hein. Je me réveille la nuit, j'ai le goût, je l'appelle le matin, je dis maman, fais-moi des feuilles de vigne.
Et c'est sur le site d'Europe1.fr qu'on retrouvera la recette qui va devenir culte des feuilles de vigne de Marie-Antoinette Patrick Fiori. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct de la ferme de la Mondière à Orbec, chez Lison et Pierre, producteurs de fromage et éleveurs de vaches normandes. Et Gaëtan Roussel est notre invité avec un joli cidre servi par Ophélie Neyman à l'instant. On l'a goûté tout à l'heure et vous allez nous parler d'autres cidres normands dans un instant.
Oui.
Avant les deux minutes du cidre d'Ophélie, Gaëtan, j'aimerais qu'on parle ensemble du vin, parce que j'ai cru comprendre en préparant cette émission que c'était un élément important de votre vie, avec modération bien sûr, mais avec plaisir en tout cas.
Ah oui, avec bonheur, j'adore découvrir, j'adore aller à la rencontre des vignerons. Le vin, ça fait un petit moment maintenant que j'en bois. Et voilà, j'ai eu la chance de connaître quelques vignerons. Il y en a un que j'adore, que j'ai jamais rencontré encore. J'aimerais beaucoup rencontrer, qui est en Aveyron. En plus, c'est mon pays.
Voilà,
Nicolas Carmaran, il s'appelle, qui fait faire 200. Voilà, j'aime les vins du Jura aussi beaucoup. J'ai la chance de connaître Eric Pfefferling, qui est à Tavel et qui fait des magnifiques vins. Donc j'adore les écouter, leur travail, leur manière d'avancer. Puis on revient à ce dont on parlait tout à l'heure, musique, cuisine, le partage, la construction, la manière de laisser des fois en jachère certains lieux pour y revenir un peu plus tard. J'adore l'histoire qu'il y a avec.
Vous avez même fait des démonstrations, des événements avec notre camarade Yves Candebordes, que vous connaissez bien et qui nous écoute, et puis des vignerons où vous cuisinez comme ça à quatre mains.
Oui, alors ça c'était à quatre mains, les cinq sens, on accueillait des gens à qui on enlevait le sens des yeux, on leur mettait un petit bandeau et ils venaient découvrir une bouchée qu'avait conçue Yves en association avec un vin qu'avait choisi Eric Pfefferling ou un vin d'Eric Pfefferling et une musique que moi j'avais faite. Donc on essayait de faire travailler les différents sens comme ça, voir un petit peu ce que les gens ressentaient et puis échanger. C'est histoire d'être ensemble, de ressentir des choses, s'apercevoir que quand on ne voit pas ce qu'on goûte, on croit que c'est du poisson. Finalement, c'est de la viande, on boit un vin rouge, c'est un vin blanc. Enfin, vous voyez, ça vous ressent
perturber
comment.
Perturber les cinq sens, c'est bien. Ouais. Est-ce que le vin est un allié de la composition? Est-ce que ça aide comme ça une jolie ivresse
Créative? Moi, je trouve que c'est un bon compagnon de studio, le vin rouge en particulier. Peut-être, et de tourner aussi, je ne sais pas pourquoi, je l'associe à ces mondes studio où la lumière peut un peu se tamiser sans du tout être dans le cliché. Le travail, la manière d'avancer, de laisser décanter les choses, le vin se décante aussi. J'aime bien cette idée-là, moi.
C'est ce que dit Francis Cabrel, qui a son frère vigneron, il a son studio au-dessus des fûts du frère, et il dit que les effluves aident à créer aussi
Je suis convaincu de ça. Ouais.
Je reviens à votre album, Est-ce que tu sais, qui vient de sortir au mois de mars. Il y a deux jolis duos dans cet album, un avec Alain Souchon.
Oui, c'est une chance qu'il a accepté. Il chante peu les mots des autres, en plus, donc j'étais heureux qu'il vienne chanter avec moi cette chanson Sans Sommeil, vraiment.
Et un autre avec Camélia Jordana, qui est sublime, qui s'appelle
c'est
Photo.
La photo. Camélia, j'adore sa voix. Depuis longtemps, je l'avais croisée il y a quelques années, mais sur scène, on avait partagé une chanson. Voilà, j'étais heureux qu'elle vienne chanter. Je trouve sa démarche intéressante artistiquement. Elle se déplace bien. On la reconnaît tout le temps sans qu'elle ait, sans mauvais jeu de mots, elle n'a pas de recette pour le coup. C'est vraiment, on la reconnaît à chaque fois, mais elle ne fait pas toujours la même chose. J'aime cette idée-là.
Ouais. Gaëtan Roussel, on est au pays de la crème, du beurre et du cidre. Hein, alors on en goûte du cidre, mais on va aller un petit peu plus loin dans l'exploration de cette boisson locale. Bien loin des cidres industriels, Ophélie Neyman, on va prendre des chemins de traverse avec vous ce samedi.
Oui, c'est ça. En fait, on va se rendre compte que le cidre, exactement comme le vin, suit un mouvement de plus en plus nature. Il me semble, Gaëtan Roussel, que vous aimez bien en particulier le vin nature. Vous avez quelques belles références. Vous parliez d'Eric Pfefferling, de l'Anglore.
Voilà, l'Anglore.
Qu'est-ce que vous cherchez, vous, quand vous goûtez un vin nature ou un vin quelconque? C'est quoi? Quel est le premier truc que vous cherchez?
Je ne sais pas si je vais dire avec les bons mots. Alors, je cherche à ce qui me plaît, c'est bête, mais voilà, que je ressente quelque chose, même si je n'en connais pas exactement la fabrication ou si je ne saurais pas le faire. Et puis, ça, la colonne vertébrale, l'acidité.
Cette verticalité, on dit.
La verticalité. J'essaye, comme j'ai reçu quelques conseils, j'essaye de retrouver ça. Voilà, comme quand j'écoute une chanson, ce que j'essaye de trouver, c'est pareil, c'est sa verticalité. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu autour? Mais voilà, je cherche cette idée-là, cette verticalité.
C'est une très belle recherche. Moi, je vais essayer de vous montrer que dans le cidre, en tout cas ceux qu'on va goûter, il y a beaucoup de points communs avec le vin nature. Alors d'abord, quelques bases. Si je vous parle de la Biscay, de la Noël des Champs, de la Germaine ou de la René Martin, je parie que vous n'avez jamais entendu parler de ces variétés de pommes. Parce qu'en fait, elles ne se mangent pas.
Ce sont des pommes à cidre qui sont acides en plus. Hein. Attention, faut pas confondre, elles ne sont pas bonnes à croquer. Hein.
Exactement. Alors il y en a des douces, il y en a des acidulées, mais il y en a aussi des très amères qui vont donner leur structure au cidre avec des tanins, oui, comme dans le vin. Et alors, c'est notamment le cas de la Fréquin Rouge que le producteur Antoine Marois, qui est juste derrière moi, affectionne particulièrement. Parce qu'elle n'est pas mûre quand elle tombe de l'arbre, il faut la ramasser à la main, puis la faire maturer sous un abri pendant 15 jours à 3 semaines.
Alors faites-nous goûter là, parce que vous avez des jolis verres devant nous, bien ambrés. Qu'est-ce qu'on va boire là?
Voilà, alors là, on va commencer par la Cassus Belli, cuvée Cassus Belli qui
comme vous le voyez, étonnant. N'a pas de bulle. Ouais. Hein. Ouais, c'est un vin de pomme qui n'est pas du tout pétillant.
Comme les cidres du Pays Basque.
Exactement, on en trouve un petit peu dans le Pays Basque espagnol, mais c'est vrai qu'ici, personne n'en fait. À part Antoine Marois, il est vraiment précurseur. On peut dire qu'il fait un travail d'artisan. Et il finit sa conversion en bio, il fait du cidre gastronomique.
Ça,
on
c'est
le voit
superbe,
bien
ça.
Ici.
Magnifique, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas... Enfin, je vais poser une question bête, pardon, je la pose.
Et... Elle n'est pas bête du tout.
Comment on fait pour ne pas avoir de bulle ou qu'est-ce qui se passe?
On finit la fermentation. Normalement, la fermentation va dégager du gaz carbonique et quand on ferme la bouteille, eh bien c'est ça, c'est ce d'accord. gaz qui reste là. Et eh bien là, on finit la fermentation en cuve et ensuite on embouteille exactement comme du vin classique.
Et une autre sélection?
Oui, alors non, ça c'est la fin de votre cidre que vous pouvez verser. Je vous verse ici la cuvée Renard. La cuvée Renard, c'est la première fois qu'il en fait. C'est une cuvée très étonnante parce qu'elle est faite avec de la macération pelliculaire, de la macération de marc de Pinot d'Onis. Donc de vin pour le coup. Là, on est vraiment dans le vin. Et le cidre, il y a un vrai trait d'union, vous allez voir, au niveau aromatique, c'est beaucoup plus explosif. Et ça montre bien toute la créativité du monde du cidre aujourd'hui. On n'est vraiment plus dans cette espèce de cidre doucereux, vaguement fruité, gentil, qui s'approche du jus de pomme. Là, on est vraiment dans un produit étonnant. Il y a une révolution des goûts du cidre et c'est chouette.
Et combien ça coûte tout ça, comme dirait ma mère, pour l'acheter une deuxième fois?
Eh bien franchement, pas très cher, parce que le Cassius Belli, donc un vrai vin de pomme qui lui aussi peut se garder, il coûte 9 euros. Et celui-ci, qui n'est pas encore lancé, d'ailleurs l'étiquette n'est pas encore créé, il coûtera à peu près 13-14 euros. Moi, je lui conseille de mettre à 14, accessible. Il m'a dit 13. Voilà, on va en discuter.
Et ben voilà, bravo. Et ben, ça vous plaît, Gaëtan Roussel?
Ça me plaît beaucoup, puis c'est impressionnant. Comme ils sont différents.
C'est ça, hein.
C'est ça qui est super. Donc, là, un travail est très...
Ce n'est pas une boisson standardisée, le cidre, pas du hein, qu'on se le dise.
Vous avez vu, il est à peine Antoine. Pétillant, le deuxième. Il est quand même pétillant, un peu cidre,
ouais,
mais à peine.
Maintenant, on en parle comme d'un vin d'arbre, en fait, et c'est exactement ça.
Europe 1, 11h30, le meilleur de la table des bons vivants. On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Dernière partie de notre émission avec le bon vivant Christophe Bourseiller.
Alors déjà,
vous savez que ça passe vite. Ben oui. Quand on est en bonne compagnie, ça passe vite.
Ben c'est vrai.
Christophe, vous êtes venu nous voir avec votre dernier roman En cherchant par vue Lescaut aux éditions La Table Ronde. Mais vous sortez aussi un livre. Alors là, c'est du sérieux. C'est la nouvelle histoire de l'ultra-gauche, hein, puisque vous êtes un spécialiste, un historien des courants minoritaires en France. Tiens, est-ce qu'il y a une façon de manger différente en fonction de ses appartenances et de ses convictions politiques?
Oui, alors il y aura une fonction. De... Il me semble qu'il y a une différence. Par exemple, je pense que à gauche, c'est copieux ouais. et à droite, c'est plus raffiné. Vous voyez, je dirais que la différence, c'est là. À droite, les portions sont moins grandes dans l'assiette, mm-hmm. mais c'est assez raffiné. Par contre, à gauche, on mange bien. Vous voyez ce
on
que je veux
être
dire
rassuré par, quelque
on
chose
est
de
rassuré
copieux.
Par ouais. des bons plats roboratifs. Mais c'est vrai que les militants d'extrême gauche que je connais sont des gens qui, quand même, ont un peu laissé de côté la gastronomie. Quoi. C'est un peu la tradition. Alors, il y a deux écoles.
Il
hein.
y a les zadistes.
Alors, les zadistes sont dans l'expérimental bio-vegan.
Ouais.
Donc, à la limite, c'est intéressant parce que là, on ne sait pas ce qu'on va manger et on ne sait pas ce qu'on va boire non plus. Donc, on est dans le mystère absolu. Et sinon, de l'autre côté, chez les gauchistes plus traditionnels, alors on est plus dans le steak pommes frites un peu à l'ancienne, vous savez, le bon vieux steak frites.
On est plus dans le partage, non, c'est des plats partagés.
Et on est dans
peu...
Oui, on est dans le partage, mais on est aussi dans la nécessité de faire la cuisine populaire, vous voyez. Il faut que ça soit de la cuisine populaire.
Mais c'est celle dont vous parliez aussi, qu'on mange également à droite. Hein. Vous parliez de tout à l'heure du cinéma de Claude Sauté, La France sous Pompidou. C'était ces plats rassurants aussi, ces jolis mijotés et ces beaux plats en sauce.
Le bourguignon, bah voilà. Bien
est-ce
sûr,
est-ce
la
qu'il
blanquette.
A une appartenance politique, le bourguignon?
Oh non, ça rassemble tout le monde, bah ça, voilà. À condition que la blanquette ne soit pas avec du riz, c'est tout ce que je demande.
Ah ben, bah, le riz est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale dans la blanquette.
C'est bon, la blanquette avec le riz.
Ah non, moi j'aime pas, j'en ai marre, je trouve que c'est du conformisme intellectuel. Je veux dire, tout, c'est pourquoi du riz? J'en peux plus, le riz avec la blanquette, j'en peux plus. Moi, j'invente autre chose. Alors, moi, je mets des endives braisées.
Ah oui, ça marche avec bien avec le gros. Ouais, pourquoi pas?
Mais il a
raison, Christophe Bourseiller, parce qu'au début, il n'y avait pas de riz dans la blanquette. Le riz est arrivé en garniture après la Seconde Guerre mondiale, figurez-vous.
Mais moi, j'insiste. Moi, je trouve qu'avec la blanquette, le riz se marie très, très bien. Un petit riz avec un zeste citron, des amandes grillées.
Et c'est l'ennui, je meurs d'ennui.
On n'est pas une vraie table de France, là, regardez.
Avec le riz, je meurs d'ennui, vous voyez, c'est un slogan.
Non mais ça, c'est parce que vous avez mangé des mauvais riz.
Ah ben ça c'est possible.
Je
ça,
me mets au défi de vous faire manger un bon riz.
Ah ben d'accord, Yves, avec plaisir, allez en route.
Alors avant de passer sur le grill des bons vivants, cher Christophe Bourseiller, il y a une chose essentielle à savoir sur vous. vous avez monté un comité spécial, un comité éphémère.
Ah oui, 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 avec des amis, il y a quelques années, on avait monté un comité contre la salade décorative, parce qu'on n'en pouvait plus d'aller dans un restaurant
où
on tout servait une espèce de feuille de salade ridicule, souvent d'ailleurs un peu fanée, un peu moche comme ça, qui était censée accompagner le plat. Alors le pire, parfois, il y a une tomate posée sur la salade.
Ah, c'est terrible.
Qu'est-ce que ça fout là, ces trucs-là?
Nous sommes d'accord.
Ah, ben, c'est bon,
on rejoint le club, on rejoint le comité.
Mais je crois que mon comité a eu une certaine influence, parce que ça tend à disparaître.
C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants, Christophe Bourseiller. Ah. Quel est le goût de votre enfance?
Ah bah, je vous l'ai dit, je crois pour moi, c'est les ragoûts de ma grand-mère et bien sûr le ragoût de pommes de terre, c'est inoubliable.
Le premier plat que vous avez cuisiné?
C'était des spaghettis à la mimolette vieille, je précise.
Ah, ça c'est bon, la vieille mimolette. Oui, oui, oui. Et votre plus beau repas, dans le sens inoubliable?
Ah bah, c'est un repas de Noël chez Yves Robert qui s'est terminé vers 21h30. On a démarré à 13h à peu près et à 21h30, on est tous séparés en hurlant pour aller se coucher dans les chambres alentours.
Grand réalisateur français, mais grand cuisinier aussi, on le découvre.
Grand cuisinier, hein, et sa femme aussi, Danielle Delorme, à qui il faut rendre hommage, ma marraine, qui était aussi une grande comédienne, grande productrice et grande cuisinière.
Votre pire repas?
Écoutez, ça peut arriver dans un restaurant particulièrement prétentieux, dont je tairai le nom par charité chrétienne, on va dire. C'était un restaurant japonais de Saint-Malo, intramuros, qui se la jouait, et j'ai attendu 5 heures. Le premier plat, avec un type prétentieux qui m'expliquait que c'était de la grande cuisine japonaise, que c'était normal d'attendre.
Mais faut partir.
Vous avez de la patience.
Et j'ai eu la patience d'attendre, et j'ai pour attendre pour être déçu, bien sûr.
Le plat que vous n'avez jamais mangé et que vous aimeriez essayer.
Mais écoutez, j'ai tellement entendu parler des ortolans.
Ah, moi, c'est interdit.
C'est interdit, mais bon, écoutez, on peut s'arranger.
Oui, mais c'est vrai que Michel Guérard, un de nos plus grands chefs cuisiniers, milite pour qu'on puisse manger l'ortolan simplement un jour par an en France. Mais c'est une vraie tradition. Enfin, c'était une vraie tradition autorisée dans le Sud-Ouest. Quel plat emmèneriez-vous sur une île déserte, Christophe Bourseiller?
Un plat que j'aime énormément, c'est les spaghettis à la boutargue.
Ah, oui.
Alors ça, la boutargue, moi, je me mens vraiment.
Très tendance en ce moment. Hein. C'est pareil,
oui,
c'est
mais alors
un condiment qu'on utilise.
Moi, je peux vous dire que je l'aimais avant.
Les œufs poisson séché,
eux je ne suis pas pour la tendance, mais là, j'ai envie de vous dire, pour une fois qu'il y a un beau produit qu'on a plus tard, et qui est tendance, c'est des produits d'exception qu'il faut goûter une fois dans
sa vie. Il y en a plusieurs. Il y a celle d'Italie, celle de Martigues, celle de Corse, qui elles sont différentes aussi, elles ont des goûts différents.
Qui sont les invités de votre dîner idéal?
Alors moi, ce que j'aime, c'est faire se réunir des gens qui ne se connaissent pas. J'aime être l'entremetteur, le go-between. J'aime être celui qui dit Yves, je vous présente Laurent, Laurent, Yves. Vous voyez, il est dans la cuisine, vous aussi. Vous voyez, j'aime ce oui. Pour moi, c'est ça, un bon repas.
Mettre en relation des gens qui n'avaient
qui
pas forcément
se connaissent pas.
Je veux que les gens choses à se dire pas. Au début. Oui, absolument.
C'est un club de rencontre.
Le mot de la fin, FIM?
Écoutez, moi, pour moi, c'est une citation de Montaigne, parce qu'elle m'a accompagné depuis mon plus jeune âge, que j'ai appris à l'école quand j'étais en seconde, l'intempérance est peste de la volupté. Parce que c'est ça quand on mange, vous voyez. Le vin, c'est génial, mais si j'en bois 4 bouteilles, au fond, je vais devenir une épave. Et tout est là. Donc,
l'équilibre.
Voilà.
On peut être bon vivant et raisonnable.
Fuyons la tempérance.
Et,
et carpe diem.
Quelle jolie fin, merci Christophe Bourseiller. Fuyons l'intempérance. C'est vrai, c'est l'excès de plaisir, l'intempérance. Et être un bon vivant, ça ne veut pas dire être excessif.
Mais non, c'est pas la grande bouffe tous les jours, voyons.
Mais de temps en temps quand même, un petit dérapage contrôlé.
Contrôlé, voilà.
C'est les vacances.
Surtout pendant les vacances.
Mais oui.
Mais plus on grimpe en âge, plus on le paye.
Bah, c'est
le
lendemain. Ça.
Alors faut boire de l'eau, alors vous avez raison. Allez, on débarrasse la table des bons vivants. Mais on se retrouve la semaine prochaine. On va déguster la figue. Et puis, le studio Coluche va se transformer en Antica Trattoria. On va pétrir l'histoire de la pizza et puis on va faire aussi tourner la pâte avant de la garnir. Hein. Alors, fine, croustillante, épaisse, moelleuse.
Fine.
Il y en aura pour tous les goûts. Yves Candebord et Ophélie Neyman seront à table la semaine prochaine avec nous pour partager le meilleur de nos invités. D'ici là, passez un bon week-end, chers auditeurs. Profitez des vacances si vous y êtes. Bon été pour les autres. Faites le marché, la cuisine.
Et un poil d'intempérance.
Allez, dans un instant, c'est Europe Midi sur Europe 1.